La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Leduo et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Jean Frédérics. Réalisation signée Olivier Guérin. Ce soir, Florian Guettet et Philippe Noisette se font face à notre affiche, l'exposition Different Way to Move, Minimalisme, New York 1960-1980, c'est au Carré d'Art, mais l'art contemporain de Nîmes. Nous parlerons également de Box de Mourad Merzouki, c'est au Théâtre du Rond-Point, et nous évoquerons plus rapidement Monument en mouvement numéro 3 des femmes au Panthéon, solo, sous la direction artistique de Nassera Belhaza. Et nous parlerons également des rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Vers 21h20, Xavier Martinet nous entraînera dans le petit salon pour parler de la place des femmes chorégraphes. En fin d'émission, Boris Pinault passera un coup de fil à Gilbert Fillinger, directeur de la Maison de la Culture d'Amiens. Et bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition de Rhin, Balthus, Giacometti, une amitié artistique à découvrir jusqu'au 29 octobre au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Une exposition pour commencer cette dispute consacrée à la danse, et pour ce faire nous nous rendons à Nîmes, au Carré d'Art, un lieu qui maintient depuis des années et par ses directions successives un haut niveau d'exigence. Different Way to Move, Minimalisme, New York 1960-1980, c'est le titre de cette exposition conçue avec le Centre Pompidou pour son 40e anniversaire. Marcella Lista en est la commissaire. Exposer la danse, on le sait, c'est toujours un exercice à haut risque. On se souviendra peut-être de l'exposition Danser justement au Centre Georges Pompidou il y a quelques années, sur laquelle il y avait beaucoup à dire, voire à redire. Qu'en est-il cette fois-ci? Réponse dans quelques instants de nos critiques. Alors, on n'est pas en territoire flamenco, quoique à Nîmes, on s'en rapproche dangereusement ou amoureusement, ce qui me concerne. Mais bon, c'est Clapping Music de Steve Reich, parce qu'on va bien sûr comprendre que si nous parlons beaucoup de danse ce soir, le propos de l'exposition, justement, est d'inclure la danse dans un ensemble plus vaste d'art. Alors, peut-être, c'est à vous d'expliquer ça beaucoup mieux que moi. Florian Guettet, peut-être pour commencer, quelle est la nature de la proposition faite au Carré d'Art?
Alors précisément, ce n'est pas une exposition sur la danse, ni moins une exposition dansée. C'est une exposition qui cherche à tracer des liens ou tracer des filiations entre les arts plastiques et les arts performatifs au sens large, puisque c'est la musique, c'est la danse, c'est la performance aussi à proprement parler. Alors moi, je trouvais que c'était une exposition d'emblée, que je peux dire réussie, qui m'a fait vraiment plaisir dans sa programmation, dans son contenu, mais aussi dans son déroulement et dans la façon dont elle est agencée. Alors effectivement, elle part de deux bornes, hein, une borne géographique, la scène new-yorkaise, et puis une borne temporelle, les décennies 60 et 70. Et c'était déjà bien assez pour expliquer ou pour ancrer cette histoire finalement de l'art minimal au sens très large. Son ambition, on va dire, c'est une relecture qui se dit subversive. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Mais effectivement, c'est une histoire, en tout cas, qu'on n'a pas forcément l'habitude de présenter, qui prend racine, en fait, à San Francisco, d'abord, dans les ateliers de Lawrence et Anna Halprin, et puis aussi dans les ateliers de Merce Cunningham, mais qui va vraiment se cristalliser dans un lieu et une époque donnée, qui est celle de la Judson Theater, de la Judson Church, entre 62 et 64, dans la scène new-yorkaise. Alors, A Different Way to Move peut s'entendre finalement en deux sens. C'est est-ce que, effectivement, on peut s'émanciper des façons académiques de concevoir le mouvement dans la danse, mais aussi, est-ce qu'on peut penser autrement le mouvement, d'une façon générale, et à partir de cette problématique croisée, eh bien, on voit les réponses communes qu'on essaie d'apporter à la fois les sculpteurs, les performeurs et les chorégraphes dans une sorte de collaboration assez symbiotique, hein, véritablement une imbrication, réciproque en tout cas, de ces enjeux, de ces questionnements et puis des formes qu'ils y apportent. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette exposition, c'est que c'est un dispositif non spectaculaire, c'est-à-dire qui respecte véritablement par sa forme les intentions même de cette époque-là, avec une sorte de sobriété générale, des pièces qui sont posées là sans fioritures, sans emphase, cherchent véritablement à montrer du concret, simplement, du factuel, voire du neutre, du désubjectivé, le fait de ne pas spectaculariser, on va dire, cette histoire-là, moi, m'a beaucoup touché, m'a permis d'y rentrer avec une certaine douceur et de pouvoir aborder ces questions complexes, hein, compliquées, assez pointues, avec beaucoup de légèreté, finalement.
Alors on va se promener un petit peu dans cette exposition pour en découvrir les différents aspects, mais justement peut-être Philippe Noisette, on se demande ce qu'on y voit au carré d'art.
Alors on doit dire qu'il y a une absente qui est Anna Halprin, mais pour une raison très simple. Anna Halprin était installée avec son mari du côté de San Francisco. Elle disait dans les années 50, et je vais me permettre de lire, « Je commence à en avoir tellement assez de la danse new-yorkaise, elle est névrotique, excentrique, dans bien des cas insipide, et dans la plupart des cas, mal inspirée. » Donc je fais cette petite citation-là, tout simplement pour expliquer qu'il va y avoir des allers-retours, notamment... tous ces chorégraphes qui vont faire ce mouvement qu'on peut dire d'anti-danse, de non-danse, de minimalisme, hein, les critiques de l'époque ne savent pas trop comment les appeler. Ces chorégraphes et d'ailleurs certains artistes plasticiens ou performeurs ont passé du temps avec Anna Halprin, ils ont appris beaucoup auprès d'Anna Halprin, et après ils reviennent ou ils viennent tout simplement s'installer à New York. Donc il y a une espèce de va-et-vient comme ça entre les deux. L'exposition nous permet d'entrer de plein pied dans ces années-là, 61, 62, avec dans chaque salle une personnalité assez forte. Par exemple, on commence l'exposition par une salle consacrée entre autres à Simone Forti, qui n'est pas forcément la chorégraphe la plus connue de ce courant. On connaît peut-être un peu mieux Yvonne Rainer ou Trisha Brown, sans parler de Lucinda Childs. Et donc l'exposition permet de rentrer comme ça, par le biais d'images, de films, d'écrits, de dessins, ou même d'objets qui servaient à la danse, dans justement cet univers qui est assez particulier, qui reflète une époque, New York des années 60-70, un New York qui est le ferment de beaucoup d'activités culturelles, artistiques. On a parlé, Florian a parlé de la Johnson Church. En effet, c'est une vraie église, une congrégation protestante, c'est pas facile à dire, qui avait déjà accueilli des artistes et qui donc s'ouvre d'un seul coup à tout un tas d'expérimentations. C'est vrai que je trouve que le point qui m'a le plus intéressé dans l'exposition, c'est de montrer que ce n'est pas les femmes chorégraphes qui vont uniquement s'occuper du mouvement et les hommes qui s'occuperaient par exemple de la matière, de la sculpture et autres. C'est beaucoup plus insidieux que ça, puisque chacun joue dans le camp de l'autre d'une certaine façon. Par exemple, Simone Forti crée des objets qui lui servent dans sa chorégraphie ou dans ses pièces. Elle dessine. C'est la même chose pour Yvonne Rainer qui dessine, qui filmera bientôt. Robert Morris, qui fait partie évidemment de cette exposition, se mettait en scène dans une boîte que l'on voit d'ailleurs présente. Robert Rauschenberg mettait des patins à roulettes et se promenait dans une grande salle pour créer une performance. Donc il y avait vraiment une façon de jouer avec les corps, avec les matières, qui n'était pas simplement d'un côté la danse, les danseurs, les chorégraphes, et de l'autre côté les sculpteurs, parce qu'il s'agit beaucoup de sculptures, même si c'est du minimalisme. Il y avait vraiment des échanges, chacun partageait ou participait à l'œuvre de l'autre. L'exposition le montre avec pas mal d'intelligence, grâce notamment à une matière présentée, avec des prêts venus d'autres musées. Il y a une force des images, il faut le reconnaître, qui sont pour la plupart plutôt de bonne qualité, ce qui n'était pas forcément le cas dans certaines expositions, notamment Danser sa vie, qu'on avait pu voir à Beaubourg. C'est vrai que cette exposition est peut-être un chaînon manquant de l'exposition il y a 4-5 ans au Centre Pompidou, où on avait l'impression qu'il manquait quelque chose, qu'il manquait justement quelque chose de ce 20e siècle, de la danse ou du mouvement ou de l'art du corps.
Alors vous avez parlé de sculpture, Philippe Noisette, c'est vrai que c'est le lien qu'on peut faire comme ça avant cette exposition de la façon la plus évidente. Un des noms que vous n'avez pas cité qui est important, c'est Carl André, qui est bien sûr présent dans cette exposition. Florian Guettet.
Oui, avec une superbe salle, Carl André et Richard Serra, qui sont présentés tous les deux, donc avec ces sortes de planchers en carreaux, en cuivre et en ardoise qu'on peut piétiner.
On
peut marcher dessus, c'est vrai.
Sans les piétiner. On peut aussi les piétiner, mais on peut simplement passer dessus.
Donc là, c'est vrai que moi c'est ma salle préférée, très honnêtement. ça a été. En plus, je trouve qu'elle dialogue très bien avec ce carrelage qui est pas très gracieux
du carré d'art,
qui est une sorte avec des carreaux qui sont même remplacés. Et j'ai trouvé que du coup, ça dialoguait encore mieux avec avec cette œuvre de Carl André. Donc j'ai trouvé ça assez astucieux. Et alors effectivement, Philippe parlait du fait que c'était pas segmenté d'un côté les sculpteurs, d'un côté les chorégraphes. Et moi, à la faveur de cette exposition, j'ai quand même découvert pas mal de choses, de sous-histoires dans l'histoire, on va dire, et notamment sur les performances de Robert Morris. Je savais qu'il en avait fait, je ne savais pas qu'il en avait fait autant, je ne savais pas qu'il avait été aussi actif sur cette période-là. Et notamment, en fait, il faut savoir, sa première pièce minimaliste, sa première sculpture, colonne, a été présentée sous forme de performance, puisqu'elle durait 7 minutes. Il a présenté 3 minutes 30 debout, 3 minutes 30 allongée. Et c'est pas rien de dire que ça a commencé dans un théâtre et en public, cette histoire de la sculpture-là. D'autant qu'il dit, ou en tout cas il laisse entendre, et c'est très bien dit dans le catalogue, que les constructions de Simone Forti, dont a parlé Philippe Noisette, lui ont inspiré lui-même ses premières pièces minimalistes. Donc, au-delà d'un jeu d'échange très ponctuel sur cette scène new-yorkaise, il y a un ancrage beaucoup plus profond, un dialogue beaucoup plus serré entre ces différentes créations, qui effectivement n'est pas représentée à sa juste valeur dans aujourd'hui les représentations collectives de cette histoire-là. Donc vous parlez de Carl André. Moi j'ai été assez touché par Steve, par Steve Paxton, mais c'était pas sur lui que je voulais venir là, par la salle aussi sur les performances. C'est-à-dire que toutes les performances qu'on voit, donc il y a effectivement un travail de sculpture très présent, assez attendu, Robert Morris, etc. Mais il y a cette salle de performance où on voit Vito Acconci, Brice Neumann, Eva Hesse, qui m'échappe, Gordon Matta-Clark, se présentent eux-mêmes comme des artistes non danseurs qui dansent. Et là aussi, il y a une forme d'ouverture, une autre ouverture, un décloisonnement de la danse par la danse, mais aussi une volonté pour des disciplines annexes qui sont encore en recherche de définition, de pouvoir se connecter à cette histoire-là et de pouvoir venir s'y nourrir, s'y alimenter. Effectivement, ça donne des pièces qui sont aujourd'hui parmi les plus connues de cette histoire du second 20e. Donc, moi, je trouve que le mérite vraiment de cette exposition, je ne sais pas si elle propose une lecture subversive.
Alors oui, elle se présente ainsi, elle se présente comme une histoire subversive du minimalisme.
En revanche...
Pour l'institution, peut-être.
Alors, moi, j'ai une hypothèse. Qui est en fait présentée par Mathieu Lalista dans son texte, de façon assez discrète, mais malgré tout, c'est là, où elle dit, finalement, elle rappelle les mots d'Ivan Rainer qui dit... Finalement, tout son travail qu'elle a mené dans les années 60 et de ses compères, je crois qu'elle les appelle les compères, a été un peu ignorée parce que c'était une sorte d'origine honteuse, une sorte de bas-ventre, je crois qu'elle utilise ce mot-là, de bas-ventre du minimalisme. Comme s'il y avait finalement quelque chose de plus viscéral qu'abstrait dans la naissance du minimalisme et qu'on ne n'osait pas le voir ou qu'on n'osait pas le dire. Et finalement, peut-être qu'effectivement, ce côté plus pulsionnel, plus charnel, plus sensuel, vient de la danse et c'est un apport absolument majeur.
Impur.
Qui est fait, oui, évidemment, c'est une origine honteuse. C'est vraiment une origine honteuse. Mais effectivement, parce que elle est honteuse, on a tendance à l'évacuer, alors que finalement, effectivement, elle peut proposer là une relecture. Est-ce que c'est subversif? J'irai pas jusque là, mais en tout cas, c'est une vraie relecture.
Philippe Noisette, cette question.
Peut-être dire aussi que l'exposition nous raconte une époque les années 60, évidemment un peu les années 70, une époque de contestation à New York. C'est assez intéressant de voir, par exemple, je pense que c'est un film où on voit une version de Trio A, qui est une pièce de Yvonne Rainer, qui est sans doute sa pièce la plus connue. Et c'est une version un peu particulière, avec plusieurs interprètes qui se produisent nus, avec simplement un drapeau américain autour du cou. Je me suis posé la question en voyant cette pièce, en voyant ces images, si en 2017 on pourrait encore présenter cette pièce de cette façon-là. C'est assez intéressant parce que ça nous permet justement, en voyant cet assemblage d'idées, de performances, d'expérimentations, de repenser justement à la danse aujourd'hui, notamment dans les années 2000, non pas sur le penser à la provocation, mais simplement penser à peut-être ce qui est subversif, ce qui ne l'est plus. Qu'est-ce qui a fait que ce mouvement, notamment là, je parle vraiment de la postmoderne danse américaine, n'a pas eu de suite immédiate. Il est resté pendant quelques années peu étudié, certainement pas montré. Il faut dire que l'un des artistes qui s'est le plus intéressé à ce courant-là, c'est Mikhail Baryshnikov. Donc vous voyez le saut, on passe d'une étoile du ballet russe d'un seul coup à la postmoderne danse. Il va retravailler avec Yvonne Rainer, il va présenter notamment ces pièces-là. J'ai juste une petite objection, et c'est pour revenir sur la salle que Florian vient de citer, avec notamment Eva Hesse, avec Boris Neumann et autres. Je trouve, moi, qu'il y a un tout petit problème avec cette salle, parce qu'elle arrive un tout petit peu à un moment où, en fait, chaque salle tourne un petit peu autour d'un corps de danseur, d'un corps de chorégraphe, et d'un seul coup, je me suis retrouvé dans cette salle avec un petit problème. Non pas que cette salle ne soit pas justifiée, mais je me suis dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette salle et qui fonctionne dans les autres. Tout simplement, et je pense que je ne me trompe pas, toutes les pièces dans cette salle sont des pièces du Centre Pompidou. Et donc, vous avez l'impression d'avoir une espèce de mini-digest du Centre Pompidou, alors que dans les autres salles, vous avez des prés, et donc vous avez un autre dialogue. Là, vous avez l'impression d'avoir une salle du Centre Pompidou qui a été un peu transporté au musée de Nîmes. Et comme après, vous avez une autre salle qui, elle, confronte Lucinda Childs et Sol Lewitt, j'ai perdu mon élan dans cette exposition à ce moment-là, ce qui est un petit peu paradoxal. Peut-être que j'aurais dû commencer par la fin. Voilà, c'était juste une petite objection. Même si ce qu'on voit dans cette salle m'intéresse, il y a un rythme qui n'est plus là à ce moment-là pour moi.
Et puis alors, vous avez évoqué Lucinda Childs et Sol Lewitt. Ajoutons Philippe Glass et on arrive à la salle Dance, effectivement, qui est une pièce dont on a pu reparler à ces micros il y a finalement pas si longtemps, puisqu'elle a été reprise deux fois à Paris dans ces dernières saisons. Une fois avec le film original de Sol Lewitt, et puis une reprise, une relecture. C'était un peu étrange, parce que c'était plus des fantômes, parce qu'il faut expliquer que donc... Alors, tiens, Florian, était exercice de description, Dance, sur une partition de Phil Glass, filmée par Sol Lewitt, avec un système de grilles au sol.
Ah, c'était Corinne Rondeau qui aurait dû...
elle écrit dans le catalogue de l'exposition, elle ne peut pas tout faire, et justement, elle ne peut pas en parler, puisque dans le catalogue.
Mais c'est une pièce très révélatrice de la façon de travailler de Lucinda Childs, effectivement, qui part de sorte de processus ou d'unités assez élémentaires qui sont répétées. Alors sur scène, on va voir donc des corps qui vont répéter les mêmes phrases, donc en balayage de droite à gauche, enfin de jardin à court, ou dans les diagonales. Et puis on a la vidéo assez écrasante, assez imposant de Soleil qui vient redoubler en fait en filmant, donc je pense que c'est en caméra directe, les pas qui sont dansés par des danseurs qui sont d'une froideur, d'une forme de l'hallucinatrice, hein, qui sont quand même très monolithiques, habillés tout en blanc. Et il y a une forme de mathématique, or c'est ça aussi qui est assez intéressant de Lucina Chia, c'est qu'elle part véritablement du dessin, elle part et là on le voit très bien dans l'exposition d'ailleurs, ces dessins, autant Trisha Brown c'était des dessins graphiques, il y a quelque chose voilà, d'assez proche du dessin d'art, autant on voit bien que chez Lucina Chia c'est une façon de travailler, hein, donc elle part de cette conceptualisation, de cette conception mathématique pour ensuite la mettre sur scène. Donc ça, ça crée une forme de grande machinerie, certes incarnée par des corps, mais qui reste très systématique dans sa proposition.
Est-ce que cette salle et cette pièce, Philippe Noisette, elle signe en effet la fin de ce mouvement-là ? C'est quoi, 79 ?
C'est une pièce de 79. Mmh. Lucinda a présenté des choses, hein, notamment à la Johnson. Elle a entre-temps dansé dans la fameuse création de Bob Wilson et Philip Glass, Einstein on the Beach, 3 ou 4
76.
Ans avant, 76, mmh. À Avignon. Non, dire qu'elle signe, elle signe peut-être le début d'une grande carrière pour Lucinda Childs, tout simplement. Dance a été un peu encombrant, peut-être pour elle, mais il y aura d'autres pièces par la suite. Je dois dire que j'ai eu vraiment une salle qui m'a j'avais les larmes aux yeux. Ah oui. Il faut être honnête, c'est la salle autour de Trisha Brown. Il n'y a pas que Trisha Brown, mais Trisha Brown est très présente dans cette salle. Pour des raisons évidentes, il y a un film de Babette Mangold, Water Motor, on est face à quelque chose de tellement beau. Il faut dire aussi que tous ces artistes, là je parle vraiment des artistes de Yvonne Renner, Simon Forti, Steve Paxton, on n'en a pas beaucoup parlé, mais étaient des danseurs incroyables, d'une rare virtuosité, sauf que l'intérêt c'était justement de ne jamais montrer la danse héroïque, mais de montrer une danse parfois qui s'inspirait des tâches, qui s'inspirait des gestes du quotidien. Avec Trisha, on montait sur les toits, on grimpait au mur, et je trouve ça passionnant parce qu'avec ces arrêts sur image que permettent les photos, les films, mais aussi des dessins et des textes dans le catalogue, on comprend bien ça, on comprend bien à quel point ces danseurs étaient des interprètes fabuleux. Ils le sont pour certains encore.
Dernier mot, Florian Guettet ?
Oui, dire quand même que le catalogue est très bien ficelé et que je trouve que c'est un complément à cette exposition assez nécessaire parce que par ailleurs, comme elle a un parti pris non pédagogique, il n'y a pas de cartel, il y a des cartels mais très minimaux. Donc il n'y a pas de grandes explications, il n'y a pas de fétichisme de l'archive ou du document, et tant mieux. Moi, il y a quand même juste deux choses que j'aimerais rajouter sur cette sorte de corps anti-héroïque, anti-formel, anti-corps presque en lui-même. C'est d'une part la lâcheté, qui est quand même un des motifs les plus présents dedans, donc évidemment qui dialogue avec Richard Serra, avec les souplesses du trait chez Vaes ou chez Maurice évidemment. Et puis l'ennui. En fait, l'ennui est très présent. J'avais pas fait ce lien. Alors Bruce Nauman, je savais qu'il avait fait ses performances filmées dans un grand moment de panne, hein, de panne d'inspiration. Donc après un mois, il se décide à tracer un carré au sol et à danser la marche et à déconstruire ce mouvement-là. Mais Simone Forti, qui aussi s'inspire de l'ennui des ours dans leur cage, etc. Donc il y a tout un truc de l'ennui. Qui moi m'a particulièrement touché parce que finalement je me suis dit, moi il y a un moment où dans cette exposition, ou dans l'exposition, dans la vision, la représentation de ces danses-là, je peux m'ennuyer, et finalement ça m'a appris à le domestiquer et presque à l'aimer.
Philippe Noisette, vous voulez conclure sur le catalogue aussi ?
Oui, alors en plus du catalogue, on peut s'intéresser à un livre qui s'appelle « Dans ses dessins » de Sarah Burkhalter et Laurent Schmidlin avec la danse et le dessin, donc ça va un peu plus loin que l'époque de la Johnson. Des textes vraiment passionnants, notamment sur Anna Alprin, sur la Johnson. C'est chez J.P. Ringier. Voilà.
Très bonne maison. L'exposition A Different Way to Move, Minimalism, New York 1960-1980, est visible jusqu'au 17 septembre au Carré d'Art, musée d'art contemporain à Nîmes. Exposition donc du 40e anniversaire du Centre Pompidou. Catalogue bilingue, français-anglais, avec des textes de Marcella Lista, Elisabeth Scott, Suzanne Rosenberg et notre camarade en dispute Corinne Rando, en coédition avec... Adjack Kahn, ça me fait signe, non, Philippe
Si, si, des performances, du live, des danses de Simone Forti tous les week-ends.
Tous les week-ends. Bon, il faut passer cet été par Nîmes. Voilà la conclusion.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
À suivre dans la dispute, Mourad Merzouki, Nassera Belhaza, les rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis et Gilbert Fillinger. Avant cela, on suit Xavier Martinet dans le petit salon. Bonsoir cher Xavier.
Bonsoir Arnaud.
Alors, on a beaucoup parlé de femmes chorégraphes, mais faisons peut-être un peu le point sur ces femmes chorégraphes.
Oui, oui, c'est très pertinent que vous ayez parlé du Judson Theater. Vous allez voir, le sujet est apparu, ou plutôt réapparu récemment au détour d'un article du New York Times le 20 avril, une interview de trois chorégraphes, Justin Peck, chorégraphe résident au New York City Ballet, Alexei Ratmansky, l'ancien directeur du Bolshoi, qui est aujourd'hui à l'American Ballet Theater, et Christopher Wildon, un indépendant qui collabore avec beaucoup d'institutions, le Bolshoi, le New York Theater, entre autres. C'est ce qu'on appelle les Big Three, et c'est à ces figures de la profession que la journaliste Roselyne Lucas glisse au milieu de l'interview. Pourquoi est-ce que la majorité des grands chorégraphes classiques sont des hommes? Alors je passe la réponse des deux premiers, mais Ratmansky est le seul qui semble tenir compte du fait qu'il existe des femmes chorégraphes réellement aujourd'hui. Crystal Pite, il les cite, Jessica Lang, Annabelle Lopez Ochoa, il cite aussi les pionnières de la danse moderne, Martha Graham, et puis Nijinska, la sœur de Nijinsky. Alors est-ce anecdotique? En fait, non, cette simple question relaye une série d'articles et d'interrogations aux États-Unis et au Royaume-Uni depuis des années au sujet de la place des chorégraphes femmes. En effet, en 2009, par exemple, en Grande-Bretagne, les magazines Dance UK et Dance Umbrella lançaient l'opération Where are the women? Où sont les femmes? Un débat public, en fait, qui demandait pourquoi une profession qui emploie tant de femmes se retrouvait mise en avant par des grands noms comme Akram Khan, Wayne McGregor et Christopher Wildon. Je cite le journal, alors que la scène de la danse contemporaine explosait, demandait le Guardian à l'époque, pourquoi toute l'attention se porte sur les chorégraphes hommes? Et il continue, bien qu'il y ait des dizaines de femmes chorégraphes, peu accèdent à la production de spectacles à grande échelle comme le font leurs collègues masculins. Même constat réitéré par le New York Times qui cite un grand nombre d'institutions, dont le New York Ballet Theater jusqu'au Bolshoi dans leur saison 2016, toutes ces institutions avec aucun ou un seul spectacle présenté par une femme, donc l'année dernière. En 2009, du côté des compagnies privées aux États-Unis sur 59, 8 étaient dirigées par des femmes. S'ensuit donc dans la presse anglo-américaine une série d'interrogations, sexisme ou problèmes spécifiques à la profession, choix artistique délibéré des femmes chorégraphes ou situations subies. En tout cas, le débat est réel concernant cette période, effectivement, vous en parliez, post-moderne de la danse, alors même que l'exposition, elle, l'avait bien montré au Centre Pompidou, la place centrale des chorégraphes femmes au début de la danse moderne, notamment des femmes américaines et allemandes. Alors en France, aujourd'hui, le tableau apparaît plus contrasté, quoique dans un entretien à l'AFP en avril, Blancali faisait part de son étonnement, un peu exaspéré d'ailleurs, de voir qu'une fois les grandes figures disparues, on ne gardait que Caroline Carlson et que, je la cite, la plupart des directeurs de centres chorégraphiques sont des hommes. C'est vrai que quelques femmes de ce qu'on appelle la nouvelle danse française, comme Mathilde Monnier, dirigent bien des centres chorégraphiques nationaux. Et on voit encore certaines grandes figures internationales toujours prisées dans les grandes institutions, hein, Robin Orlin à la Bastille en novembre dernier, Lisbeth Gruvez, la Belge, en 2015, toujours à la Bastille sur Bob Dylan. Par contre, dans les festivals contemporains actuellement, c'est vrai que la domination des chorégraphes hommes est assez large. J'ai compté 4 femmes sur 31 spectacles à Montpellier Danse qui va se tenir bientôt. On retrouvera Lucinda Childs d'ailleurs, mais aussi Mathilde Monnier, Marie Chouinard, la Canadienne. Je ne donne pas tout le détail pour le Festival d'Avignon, mais sur 10 spectacles de danse, 5 seront chorégraphiés par des femmes de la génération post-moderne, seul peut-être exemple de parité, avec les rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, des femmes qui justement, pour ce Annie Mathieu, la directrice, le féminisme est un credo, la matière même de leur travail, elles ne font aucune concession là-dessus. Je n'évoque pas dans le détail non plus la danse patrimoniale, on pourra en remarquer, mais par contraste, c'est intéressant, 2 des principaux domaines sont tenus par des femmes. Je termine avec cette remarque de Nelly Siwek Saba, jeune sud-africaine de la trentaine qu'on voit en France en ce moment. Certains hommes ont l'impression qu'ils ne sont pas devenus chorégraphes tant qu'ils n'ont pas montré leur tablette de chocolat en public. Alors s'agit-il d'un concours de t-shirt mouillé tout simplement ou d'un problème plus spécifique à la danse contemporaine?
Bon, allez, c'est le tour des tablettes de chocolat. On va pas faire de concours ce soir. De l'avantage d'être à la radio. Alors plus largement et plus sérieusement, Philippe Noisette,
C'est vrai qu'il faut peut-être distinguer ce qui relève du ballet, du ballet classique, néoclassique. Et là, il y a un vrai problème. Une maison comme le Royal Ballet à Londres n'a pas de pièces et ne commande pas de pièces à des femmes depuis un bon moment. L'English National Ballet, dirigé par une ancienne danseuse, danseuse toujours d'ailleurs, a fait un effort avec une soirée autour des femmes. Au New York City Ballet, vous avez très très peu de propositions, très peu de créations. Le Ballet de l'Opéra de Paris cette année ne brille pas par ses créations, enfin pour la saison qui vient, puisqu'on commande à des hommes, Alexander Ekman, Saburo Teshigawara, Ofer Schechter. C'est vrai qu'il y a un vrai problème, et surtout le problème est peut-être que les chorégraphes hommes ne voient pas où est le problème.
Vous avez failli dire mal, hein.
Ouais, j'ai posé la question d'ailleurs à Justin Peck et Ratmansky quand je les ai rencontrés, et ils étaient surpris par cette question. Ils voient bien que, mais en même temps, pourquoi est-ce que...
C'est pas un sujet.
Non, c'est pas. Et c'est ça qui est assez étonnant, parce que ça veut dire quand même que... Il y a un petit manque de considération, de réflexion. Ils sont les premiers à mettre en avant, évidemment, le corps féminin, des artistes, des étoiles, des principaux. C'est assez parlant. Il faut voir aussi que on a parlé tout à l'heure de Martha Graham, de Nijinska, on peut parler de Birgit Kühlberg. Il y a quand même une histoire de la danse au féminin, hein, sans remonter jusqu'à Isadora Duncan et autres, qui est très très importante. Et on fait assez peu l'effort de remonter ces pièces ou de retrouver l'origine de ces pièces. C'est un petit peu dommage. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu Nijinska par ici.
Florian Guettet.
Oui, mais je crois que si les hommes ne s'en soucient pas plus que ça, c'est aussi parce que c'est le reflet d'un état sociétal. D'abord, je pense qu'il faut réinscrire aussi ce débat dans la sous-représentativité des femmes dans tous les postes de décision, dans le milieu culturel comme dans les autres milieux. Alors moi, je me suis intéressé curieusement au rapport 2017 de l'Observatoire sur l'égalité hommes-femmes. Et ils ont remis un rapport sur le milieu de la culture et de la communication, et là, les résultats sont plutôt affligeants. Je vais faire un peu mon comptable, mais sur donc les CCN, on en a parlé, mais enfin, c'est quand
Centre chorégraphique nationaux.
Centre chorégraphique nationaux, 3 femmes, un duo mixte, et sinon le reste c'est des hommes, ça représente donc 11% de femmes, alors qu'on a eu en plus des directrices célèbres, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution, ou en tout cas pas d'évolution vers un mieux, donc c'est quand même assez inquiétant. Dans l'essai national, c'est 28% de femmes contre 72% d'hommes, donc c'est quand même incroyable. Au passage, alors j'ai vu que c'était quand même 12% de femmes pour la musique, donc là encore,
c'est encore pire.
Je sais pas si ça compense, mais enfin. Et puis quand les femmes accèdent à des postes de responsabilité, bien on voit que bien souvent ce sont des structures soit qui n'ont pas les mêmes budgets, soit qui n'ont pas le même quorum humain, enfin le même nombre d'employés. Donc même là, quand elles arrivent à avoir un poste, eh bien on leur donne jamais le plus important. Alors malgré tout, pour nuancer quand même, il y a d'autres branches, on va dire, un peu annexes à la chorégraphie qui vont se féminiser ou qui sont en passe de se féminiser. C'est dans les conseils d'administration. Alors bon, après, il faut bien savoir que c'est un rôle plutôt honorifique qu'autre chose, plutôt qu'un vrai pouvoir de décision. Mais les programmatrices, quand même, on a en France, en tout cas, pas mal de programmatrices qui sont installées depuis un moment, qui sont bien installées. Anita Mathieu, Anne Sauvage, Marie Collin. Les critiques, il y a quand même quelques critiques, Boisseau, Vernet, Bishop, etc., Eve Beauvallet. Dans la presse culturelle, ce rapport dit d'ailleurs qu'on est quasiment à parité. Alors voilà, ceci étant dit, maintenant, la deuxième option, donc au-delà de le replacer dans ce contexte-là, c'est quand même de dire qu'il y a peut-être aussi un problème de misogynie dans le monde de la danse, et qu'à un moment, il faut aussi le dire. Moi, j'étais très étonnée, je suis arrivée très tard dans le milieu de la danse, donc je suis arrivée avec beaucoup d'attentes et d'a priori, et je pensais que parce que c'était un milieu plutôt féminisé, parce qu'il y avait beaucoup d'homosexuels aussi, qu'il y avait une forme d'ouverture à la femme. Force est de constater que c'est pas le cas. Il y a quand même des chorégraphes qui sont connus pour leur misogynie, et parfois ce sont des chorégraphes femmes elles-mêmes. Il y a une danseuse qui me faisait remarquer il y a pas longtemps, mais je trouvais ça assez intéressant. Elle me disait, mais finalement, nous dans notre formation, on nous demande plus en tant que femmes de nier les marqueurs de notre corps féminin plutôt que les hommes. Et je crois que c'est vrai, qu'en tout cas, il faut aussi le prendre en compte dans cette question.
Vous avez Martinet ?
Oui, oui, et ça peut s'entendre dans les propos de certaines chorégraphes femmes. Juste pour appuyer en un mot vos propos, Florian Guettet, j'invite le public à se référer par exemple au rapport de la SACD sur la saison 2015-2016, où on a les chiffres précis justement des rapports hommes-femmes dans tous les centres chorégraphiques nationaux. C'est effectivement assez éloquent. La deuxième chose, en vous entendant Philippe Noisette et en ayant entendu effectivement vos récits sur cette exposition, sur le Judson Theater et cette grande époque qu'il marquait, cette période des années 60, dans laquelle on voyait beaucoup de chorégraphes femmes justement qui allaient devenir qui directrices de compagnie, qui partenaires de telle ou telle grande institution, ça nous oblige à penser effectivement, et vous l'avez dit aussi, à cette grande histoire de la chorégraphie féminine qu'il y a eu au début de la danse moderne, au début du siècle. Il y en avait beaucoup, Loïe Fuller, vous avez dit Isadora Duncan, Mary Wigman aussi, enfin il y en a un grand nombre. Et ce qui m'étonne effectivement, vous en avez parlé encore dans vos interviews avec Christopher Weldon ou Justin Peck plutôt, c'est qu'il y a une certaine forme d'oubli de la part de certains chorégraphes de cette histoire dans leurs remarques. Justement, j'ai pas cité les réponses de Justin Peck et Christopher Weldon, ce sera ma dernière remarque, mais c'est intéressant. Pour Justin Peck, il faudrait encourager les jeunes femmes à explorer ce qu'il appelle cette part chorégraphique de leur cerveau, c'est un peu énigmatique. Et pour Weldon, tout simplement, il n'y a pas de misogynie dans ce travail. Les directeurs, dit-il, recherchent la diversité et adoreraient présenter le travail des femmes chorégraphes.
Bon, sans commentaire, plus avant.
Sans commentaire.
Bon. Si vous voulez retrouver une chorégraphe femme samedi prochain, nouvelle journée de masterclass enregistrée en public dans la maison de la radio, et ça commencera à 10h du matin avec Mathilde Monnier, chorégraphe, femme, directrice du Centre National de la Danse, après avoir longtemps dirigé le Centre Chorégraphique National de Montpellier. Donc ce sera samedi matin à 10h en public. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la maison de la radio, sur celui de France Culture. Puis il y aura bien sûr d'autres masterclass dans cette journée. Il y aura Macha Makeyev, il y aura Annette Messager, il y aura Olivier Assayas et encore un invité surprise, on va dire ça comme ça. Donc rendez-vous samedi prochain pour cette journée de masterclass. Recommandation des critiques présents ce soir, un peu télégraphique, mais c'est bien de passer beaucoup de temps sur cette exposition au Carré d'Art, mais quand même parlons d'autres spectacles ou d'autres festivals en l'occurrence. Spectacle Monument Mouvement numéro 3 des femmes au Panthéon, avec une chorégraphe, Nassera Belhaza, qui fait... Enfin, dont je suis aussi attentivement le travail. De quoi s'agit-il ? Quel est ce projet, Philippe Noisette ?
Alors, c'est un projet qui, comme son nom l'indique, invite des chorégraphes, mais aussi des circassiens, à investir des lieux du patrimoine, donc des monuments nationaux, comme on dit. Ça va du Panthéon au Mont-Saint-Michel. Là, il s'agit du Panthéon et de Nassera Belhaza, qui viendra, elle ne sera pas seule, elle sera avec sa sœur, Dalila, et avec des personnes, des habitants de Mantes-la-Jolie, pour une procession. Il se trouve que l'année dernière, durant la Biennale de danse de Venise, j'ai assisté à à l'ébauche d'une procession selon Nassera Belhaza, non pas dans un lieu historique, mais dans un auditorium, donc c'était plus moins intéressant peut-être au niveau du cadre. Et Nassera travaille sur des mouvements, parfois sur la lenteur, parfois sur la transe, sur des choses répétées. Et je pense que la procession peut être pour elle une façon de dompter un lieu comme le Panthéon, qui est un lieu quand même improbable, impossible, un lieu trop grand, un lieu avec une histoire un petit peu pesante. Donc j'imagine qu'elle va travailler sur notamment le rapport de la procession d'elle-même, de sa sœur, de ses participants et du public. Je trouve ça intéressant parce que dans cette idée qui est une bonne idée de départ, l'idée de monument en mouvement, il y a quand même le risque de se perdre dans un lieu qui est un lieu souvent, j'ai vu il n'y a pas très longtemps un spectacle à la Conciergerie, et j'ai trouvé que le chorégraphe une fois de plus avait réussi à comprendre le lieu, à l'occuper sans faire du remplissage, et c'est ça qui m'intéresse. On sera là donc pour assister à cette procession. J'en attends beaucoup parce que j'aime beaucoup cette chorégraphe. Puis voilà, on parle encore de femmes.
Nassera Belhaza, ce sera mardi 13 juin, donc mardi de la semaine prochaine à 20h au Panthéon. C'est en partenariat avec l'MC 93 et le collectif 12 qui continue à faire un travail effectivement remarquable à Mantes-la-Jolie. Monument en mouvement numéro 3 des femmes au Panthéon. Et puis, on l'a évoqué précédemment, je crois, dans cette émission, mais les rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis se poursuivent jusqu'au 17 juin. Quelques petits mots de Florian Guettet à ce sujet.
Oui, alors c'est sûr que ce n'est pas un festival tout neuf, hein, puisque si on compte le concours de Bagnolet, ben, ça va faire 48 ans que
Mais la nouveauté n'est pas un critère d'appréciation.
Oui.
C'est la qualité qui compte.
Tout à fait. Et moi, c'est un rendez-vous que je suis content de retrouver chaque année, donc qui est placé maintenant sous la direction d'Anita Mathieu, on en a parlé tout à l'heure, mais qui fait un beau travail. Moi, ce que j'aime dans ce rendez-vous, c'est évidemment son lieu, hein, le fait qu'il investisse un département qui est souvent déclassé, qui est pas facile pour la culture, mais non seulement il programme, je crois qu'il y a 9 villes et 12 théâtres partenaires, mais ils font aussi beaucoup d'actions de proximité, d'ateliers, d'actions de sensibilisation, d'initiation, et donc ils créent du lien et une ouverture culturelle. Il y a pour cette édition particulièrement beaucoup de femmes, donc ça va bien dans notre débat, puisqu'il y en a 16 impliquées sur les 29 spectacles proposés. C'est un festival qui accueille beaucoup international, comme son nom l'indique, et ça, dans une période de disette, eh bien, c'est plutôt un luxe. Et puis, moi, je sais que j'avais découvert pas mal de chorégraphes émergents. J'avais découvert Mélanie Perrier ou Malika Djardi, que je suis maintenant. Donc, c'est toujours l'occasion aussi de trouver des petites perles. Donc, il reste 9 jours. 12 jours, pardon, 14 jours et 9 spectacles. Si je devais
12,
garder.
Si je compte bien. Pardon.
Oui,
allez, gardez-en
12.
Un.
Mais si je devais. Les pièces qui me rendent curieuse, eh bien, il y a cette pièce hallucinée, I Wish I Could Speak in une Technicolor de Simon Tanguy, Roger Salaire-Reiné et Fanny Futterknecht. Qui avait déjà été joué pendant le festival New Setting. Anne van der Broek, qui me rend curieux. Et Keep Calm de Michel Schweizer, dans un format expérimental qui implique des enfants.
Très bien, jusqu'au 17 juin, les rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis qu'il fallait en effet saluer.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et la suite de cette dispute consacrée ce lundi soir à la danse, on se rend au Théâtre du Rond-Point à Paris pour découvrir ou redécouvrir Box Box, une pièce chorégraphique de Mourad Merzouki qui avait été créée en 2010 à la Biennale de danse de Lyon avec des musiques interprétées par Quatuor Debussy et Assen, titre assez explicite sur son sujet. La boxe, ça va être peu de rounds qui nous restent dans cette émission, une pièce pour 8 danseurs et 4 musiciens. Ambiance musicale, même s'il nous reste peu de temps, mais pour entendre justement qu'on change d'univers, en tout cas on passe d'un univers à un autre, Box Box, Philippe Noisette.
Alors, Mourad Merzouki n'est pas le premier à avoir essayé de mélanger ou de faire se rencontrer la boxe et la danse contemporaine, Régine Chopineau,
avec un
spectacle K.O.K. Alors Régine Chopineau faisait plutôt dans le XL, il y avait un vrai ring, il y avait des costumes surdimensionnés.
C'est Jean-Paul Gaultier qui faisait les costumes,
tout à fait,
des shorts, je m'en souviens.
des shorts grandeur nature. Mourad Merzouki, lui, commence plutôt le spectacle par du petit, du small, avec un tout petit ring et une forêt de gants, les musiciens présents. Et en fait, pendant une heure environ, il va évidemment s'amuser à trouver ce qui, à un moment, peut être un point de rencontre, de friction entre ce sport, le noble art, la danse et la musique. Il y a beaucoup de bonnes idées, notamment lorsqu'il travaille sur l'esquive, sur le pas de côté. Il y a des choses un tout petit peu moins réussies quand il colle trop justement au sport lui-même. Il y a une scène où on voit des danseurs dans un corps à corps avec un sac d'entraînement, je crois qu'on dit ça comme ça.
Un sac de frappe.
C'est un petit peu moins fort quand vous arrivez à ce moment-là, quand vous essayez de reproduire quelque chose. Et évidemment, il y a toute la panoplie des mouvements du hip-hop. Mourad Merzouki est vraiment quelqu'un qui a beaucoup fait pour le hip-hop en France, avec Kaderatou dans les années 80. C'est un pionnier qui a gardé quand même une belle énergie, une belle envie de faire. Après, se pose la question de pourquoi remonter un spectacle comme Box. Je m'interroge.
La question est posée.
Il y a une distribution qui a presque peu changé, mais il y a une espèce de petite merveille qui est un danseur brésilien qu'on avait vu dans un spectacle précédent de Mourad Merzouki, Agua, et qui s'appelle Diego Alves de Santo. Et puis il y a un solo merveilleux de Teddy Vreardo. Et c'est vrai que c'est toujours le grand bonheur des spectacles de hip-hop. C'est le solo qui va évidemment mettre tout le monde KO, c'est le cas de le dire. Il y en a quelques-uns dans ce spectacle. Et puis il y a un jeu avec les musiciens qui est plutôt sympathique.
Florian Guettet.
Oui, c'est une pièce sympathique, c'est une pièce jolie, c'est une pièce comique, c'est une pièce populaire. Mais sachez que dans ma bouche, c'est pas forcément des compliments. En fait, j'ai tenté effectivement de louer le fait que c'est bien ficelé chorégraphiquement, que la scénographie est soignée, alors elle est inspirée, presque pompée quand même sur Tim Burton. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est mobile. Donc ça, je trouvais ça assez astucieux, la façon dont ça s'intègre à l'écriture. Moi, le problème de cette pièce, c'est qu'elle joue un peu trop le jeu du divertissement et qu'elle appuie ou elle tire quand même sur les grosses ficelles. Alors c'est sûr qu'elle convoque déjà un univers entre le dessin animé, la danse contemporaine, mais un peu néoclassique, le cirque, le spectacle de marionnettes. On a un peu de Buster Keaton, on a un petit peu de Max Brother, on a un peu de farce. On a un peu de tout ça. Moi, ça m'a pas vraiment toujours touché parce que j'ai trouvé que l'alliance entre l'univers Tim Burton, Schubert qui est déjà marié avec Philippe Glass, sur la boxe entrecoupée de hip-hop, etc., ça faisait un peu trop pour moi et à chaque fois je voyais un peu trop les intentions. Par exemple, quand on a effectivement ce solo, un solo qui est très bien interprété, mais qui est joué sur la jeune fille et la mort de Schubert. Et effectivement, c'est facile de faire pleurer sur la jeune fille et la mort, et ma voisine d'à côté était en larmes. Moi, ça tendance plutôt à m'énerver parce que je trouve que c'est un peu cédé à la facilité. Alors, c'est très comique jusqu'au gag, un peu à répétition. Du coup, on sort de là, moi, j'ai vraiment comme un divertissement, c'est-à-dire que c'est une parenthèse ouverte dans ma journée. J'ai oublié un peu ma vie, je me suis diverti, mais j'ai pas eu d'expérience sur le corps, sur le groupe, sur ce sport-là. J'ai rien appris non plus. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu détaché de son sujet, pour tout dire, au profit de grosses ficelles du spectaculaire.
Quand vous entendez ce regard beaucoup plus critique,
grosses ficelles, c'est sans doute un petit peu exagéré, car il y a vraiment des spectacles avec des ficelles plus grosses. je crois que dans le titre même, Box, il y a cette intention de redoubler quelque chose, de ne pas trop se prendre au sérieux. C'est vrai qu'il manque peut-être une dramaturgie, peut-être un fil. Mourad Merzouki le dit, ma danse ne raconte rien, c'est simplement un instant comme ça. C'est pas tant les musiciens que le choix des musiques, puisqu'il y a une dizaine d'airs qui sont interprétés la plupart en direct, qui effectivement sert de fil conducteur et qui n'est pas toujours très très juste. Les choix pourraient être peut-être plus inattendus, peut-être aller un petit peu contre la marche du spectacle. Il faut dire quand même que qu'il y a une envie de distraire le public. C'est un divertissement, il se revendique comme tel. J'ai vu mieux, j'ai vu pire. on peut quand même signaler qu'il y a une équipe qui qui tient, une équipe qui est faite de danseurs et de musiciens. Voilà, on passe un moment, voilà, le moment passe.
Jean Agathé.
Oui, je pense que c'est un spectacle à recommander pour les familles, pour aussi voilà, c'est une forme de d'initiation à la danse. Je trouve que aussi pour les danseurs de hip-hop, c'est bien de les voir s'exercer dans d'autres registres. D'autant que cette matière de départ, hein, cette stylisation de la boxe et de la danse, hein, on l'a vu chez Chopineau, mais elle est plutôt bonne. Et puis on l'a retrouvé dans, en tout cas le croisement sport danse chez Rigal ou chez Ouramdam était plutôt réussi aussi. Donc il y a matière à. Maintenant, je reste quand même effectivement sur ce côté un peu trop tarte.
Voilà,
il faut que je le dise. Mais quand même, parce que moi, quand effectivement Merzouki dit dans son entretien, ma danse n'est pas narrative. Jusqu'à quel point c'est vrai? Parce que malgré tout, c'est plein de micro récits. C'est quand même très illustratif. C'est pas non plus une danse abstraite. C'est pas non plus une danse. Donc moi, j'aurais préféré Emile qu'il assume ce côté narratif, qu'ils le disent plutôt que qu'ils essayent de s'en prémunir un peu hâtivement.
Box, en tout cas, cette pièce de Mourad Merzouki est à l'affiche du Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 18 juin. Et puis ce dimanche, après la représentation à 16h, il y aura un échange avec l'équipe du spectacle, un bord plateau. Donc je le signale pour celles et ceux qui ont envie justement de poser des questions sur la narrativité ou autre directement à Mourad Merzouki. Et avant de conclure cette émission par un coup de fil, à passer à Gilbert Fillinger, le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu de vendredi soir. Et pour ce faire, Justine Dibling nous a rejoint, comme tous les soirs, ou presque. D'abord, rappel de la question, puis enfin la réponse, Justine.
Donc la question était, sur quelle pochette d'album d'un groupe de rock britannique mythique peut-on voir L'Enfer, extrait du Jardin des Délices de Jérôme Bosch? Et la réponse était Deep Purple, du groupe Deep Purple.
Et ce soir, on fait gagner des invitations pour une très belle exposition dont on parlera mercredi soir dans la dispute. C'est Derain Balthus Giacometti, une amitié artistique à découvrir au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Elle sera visible jusqu'au 29 octobre. Quelle est la question?
En 1977, le peintre Balthus acquiert le grand chalet Balthus en Suisse, lieu où il vivra jusqu'à sa mort en 2001, et aujourd'hui devenu la Fondation Balthus. Où se trouve ce chalet? Attention, la commune et le canton sont requis.
Oh là, c'est difficile. Bon, alors, commune et canton, ce sera la réponse à envoyer avec vos coordonnées postales par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Place à présent au coup de fil de la dispute passée par Boris Pinault.
Hello.
Et ce soir, le coup de fil de la dispute est passé à la Maison de la Culture d'Amiens, la MCA. Bonsoir Gilbert Fillinger.
Bonsoir.
Vous en êtes le directeur depuis 2005. La maison a été inaugurée en 1966 par André Malraux. C'est la première maison de la culture à ouvrir dans des locaux conçus pour l'occasion. Elle compte 3 salles et un cinéma classé art et essai. Chaque année s'y déroule le Festival international du film d'Amiens. La maison héberge un label musical depuis plus de 30 ans, ainsi que de nombreuses expositions temporaire. Elle organise également 3 festivals par an. On est vraiment dans l'idée d'un lieu pluridisciplinaire tel que l'avait pensé André Malraux, un lieu ouvert à toutes les formes d'expression. Le projet des Maisons de la Culture était de rendre accessible au plus grand nombre les grandes œuvres de l'humanité. Dans son discours d'inauguration de la MCA, Malraux annonçait, je cite, qu'avant 10 ans, ce mot hideux de province aura cessé d'exister. Comment il s'envisage pour vous aujourd'hui, en 2017, ce projet de décentralisation culturelle?
En fait, ce qui a toujours été important pour moi, puisque j'ai été directeur des Maisons de la Culture de Bourges, hein, qui était la première inaugurée, et justement, c'est de garder cette idée de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que C'est vrai qu'on est un lieu avant tout, hein, puisque c'est ce qui, et voilà, ce qui prend aussi le plus de temps, dans lequel on investit le plus, dans lequel on fait aussi le plus de création, de production. Mais donc il y a le spectacle vivant, mais aussi que justement pour pouvoir s'ouvrir à tout le monde, pour pouvoir toucher tout le monde, je pense que c'est important d'être aussi bien un cinéma, un lieu d'exposition, et de sortir de nos murs également, puisque tout ne se passe pas dans nos murs. Voilà, on a donc un festival, l'un des trois festivals, c'est un festival de jardin. Donc voilà, donc accessible à un large public.
La Maison de la Culture d'Amiens a été labellisée Pôle Européen de Création et de Diffusion. Des partenariats européens se sont mis en place avec d'autres structures également. Qu'est-ce que cette ouverture permet concrètement ?
Si vous voulez, d'abord c'est important pour nous, puisqu'on amène des choses, en fait, on amène l'Europe, on amène le monde entier. Hein. Et je crois que c'est important aujourd'hui, dans ce monde qui se ferme de plus en plus, justement, que nous, gens de culture, qui essayons de défendre une forme de vie, je dirais, de démocratie aussi, justement, qu'on soit dans cette ouverture et que on puisse, dans une ville comme Amiens, présenter des gens venus de partout, des spectacles en langue originale, mais également, c'est-à-dire d'être dans cet échange, c'est-à-dire d'exister ici, mais aussi d'exister ailleurs. Et ça, c'est vraiment très important pour nous, puisque il y a des spectacles qui viennent, mais il y a aussi des spectacles qui partent, il y a des spectacles que nous, on fabrique dans notre maison, et qui partent ailleurs, et c'est à ce niveau-là qu'on est un vrai pôle européen.
La création et la production sont au cœur de votre activité à la Maison de la Culture d'Amiens. Je crois plus de 50 spectacles depuis votre arrivée en 2005. Quels sont les grands projets de la saison prochaine ?
En création, donc on a travaillé avec un jeune metteur en scène, s'appelle Karim Belkacem, qui lui-même travaille avec un musicien qui est Alain Moreau, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup avec Anne-Thérèse de Castres-Necker. Donc là, c'est un travail en plus, puisque lui-même est né dans les quartiers, et un spectacle s'appelle 23 rue Couperin, qui raconte un peu l'histoire d'un quartier difficile. Donc ça, c'est important, justement, qu'on soit aussi aux sources des choses. Il y a Denis Podalides qui vient, parce que ça c'est un vieux compagnonnage pour moi, et qui clora un peu mon histoire dans un sens, parce que c'est ma dernière saison, hein. Moi je quitte la Maison de la Culture, et donc on crée le Triomphe de l'Amour de Marivaux. Il y a Anne-Laure Liégeois qui va créer, donc ça c'est toujours en création, en production même, là ça, c'est nous-mêmes qui portons la production, Les Soldats de Lens, et Lens de Buchner, et on travaille également avec Nathalie Garraud, Olivier Saccomano, qui viennent d'être nommés à Montpellier, ce qui m'a vraiment réjoui, et on est sur un triptyque qui s'appelle La Beauté du Geste, et donc là on crée la deuxième partie.
Alors à votre arrivée en 2005, la maison comptait 22 000 spectateurs, elle en compte aujourd'hui plus de 55 000, vous l'avez dit aussi, c'est bientôt le temps des au revoir, l'année 2017-2018 sera votre dernière en tant que directeur de la Maison de la Culture d'Amiens. Cette prochaine saison, sa programmation, c'est aussi l'occasion pour vous de fêter ça?
Oui, et de faire un voyage un peu dans toute mon histoire, hein, de mes longues années de partenariat, d'accompagnement d'artistes.
Merci beaucoup Gilbert Fillinger. On vous souhaite, ainsi qu'à toute l'équipe et au public de la Maison de la Culture d'Amiens, une excellente saison 2017-2018. Merci et belle soirée à vous.
Au revoir.
Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter cette émission, bien sûr vous abonner au podcast et également nous écrire. Rendez-vous demain pour une nouvelle dispute à 21h, elle sera consacrée au cinéma en compagnie de Muriel Joudet, Julien Gester et Antoine Guillot, à notre affiche L'Amant d'un jour de Philippe Garrel, Le jour d'après, donc Sang-Soo, et Le vénérable W de Barbet Schroeder. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture à 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.